effectivement, je suis l'auteur d'un premier ouvrage qui s'appelle Something is Wrong, mais dont le titre est trompeur, parce qu'en français c'est mauvais, quelque chose ne va pas. Donc, Something is Wrong, c'est l'expression anglaise pour dire quelque chose ne va pas. Mais plus exactement, quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose ne tourne pas rond, c'est des histoires de fous, des trucs de ouf, comme disent les jeunes, hein, comme disent les jeunes aujourd'hui, des trucs de ouf, ou des trucs de newf. C'est au choix. Et donc, c'est un ouvrage qui jette un regard critique et très satirique. Hein. C'est un ouvrage satirique. J'assume d'ailleurs cette satire vis-à-vis de choses qui se passent en Afrique, concernant des choses plutôt qui se passent en Afrique et dont on doit parler et qu'on doit dénoncer.
D'accord. Merci beaucoup. Pourquoi avoir écrit, eu cette idée d'écrire, mais quand même, c'est des livres, comme vous l'avez dit, qu'ils sont écrits d'une manière satirique pour un jeune comme vous?
Oui, alors c'est très intéressant, d'autant plus que j'ai toujours eu à l'esprit cette citation de Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui disait « Ceux qui entreprennent d'écrire l'histoire le font parce qu'ils souffrent que les choses dignes d'être sues demeurent ensevelies dans le silence. »
Ah.
Donc c'est essentiellement ça, et étant donné qu'on dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent, et ces deux choses conjuguées m'ont poussé à écrire ces ouvrages, parce que ces ouvrages, donc déjà Something is Wrong, quelque chose ne va pas, pour parler de beaucoup de choses. Donc je parle de Nicolas Sarkozy, d'État d'Israël, de la démocratie, des questions d'immigration. C'est un essai très polémique, hein, très satirique. Et dans le deuxième ouvrage, qui lui est un condensé des articles que j'ai écrits et publiés sur mon pays, le Gabon, parce que je suis gabonais.
D'accord.
Et là, il s'agit également de témoigner de cette période que je pense charnière de l'histoire de mon pays, et que qui ne devait pas demeurer ensevelie dans le silence.
Voilà. Ah, très bien. Là, vous évoquez un petit peu de Monsieur Sarkozy, qui était un ancien président du Gabon de la République française, bien sûr. Vous savez, Sarkozy a participé, mais quand même pas mal à beaucoup de choses au Gabon. C'est comme ça, je fais allusion au président du Gabon. Enfin bref, donc, mais quand même, dans votre premier livre, vous évoquez l'autre livre, l'autre discours de Dakar concernant M. Sarkozy. Je souhaite que vous nous faites encore ce rappel historique du fameux discours, hein, parce que ce discours a beaucoup coulé d'encre parmi les intellectuels africains.
Alors oui, justement, je parle du discours de Dakar dans cet ouvrage, effectivement, mais je parle aussi d'un autre discours de Dakar, qui est un discours, enfin, plutôt des propos qu'Abdoulaye Wade aurait tenus. Alors, le discours de Dakar, je dis que c'est très simple. Hein. Nicolas Sarkozy dit que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Je dis que l'entrée dans l'histoire, déjà, est une invention humaine. C'est-à-dire, l'histoire, c'est la création des hommes. L'histoire n'existe pas en elle-même. L'histoire, ce sont les hommes qui décident d'écrire l'histoire et qui décident d'y mettre ce qu'ils veulent, ce qu'ils jugent important. Ce qui veut dire que c'est un peu comme les souvenirs. On n'aura pas les mêmes souvenirs en fonction car ils dépendent de la vie qu'on a eue. Vous souviendrez peut-être d'un événement heureux qui ne seront pas les mêmes pour moi. Même si on a vécu le même événement, on ne racontera pas de la même façon, cet événement n'aura pas la même portée. Donc, se sentir vexé parce que Nicolas Sarkozy, fut-il président de la République française, qui est la cinquième puissance du monde et mon pays d'adoption, c'était beaucoup de bruit pour rien en fin de compte, parce que Nicolas Sarkozy le dise, ça ne veut pas dire que ce soit vrai. Et d'autant plus que l'histoire, c'est quelque chose de très relatif, parce que l'histoire des Amérindiens ne sera jamais la même que celle des Bantous, ne sera jamais la même que celle des Allemands, des Danois, etc. Donc il n'y a pas le même point de vue, et c'était pour moi beaucoup de bruit pour rien en fin de compte. Mais ce que j'ai trouvé drôle, et d'ailleurs dans l'autre discours de Dakar dont je parle, d'ailleurs les chapitres se suivent, dans le chapitre suivant, c'est quand on se retrouve avec un Abdoulaye Wade qui dit ceci, que Macky Sall, l'actuel président de la République du Sénégal, était un homme pour qui il n'aura jamais de respect, parce que c'est un descendant d'esclaves. Et il dit que ni lui, ni son fils Karim Wade, ne se soumettront jamais à lui, ne le respecteront parce que c'est un descendant d'esclaves. Et ces propos n'ont choqué personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la même réaction de la part des Africains, toujours promptes à se plaindre lorsqu'il s'agit de ces questions-là. Et moi, je m'amuse en me disant, mais est-ce que la question qui se pose, c'est plus une question de parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit, accessoirement un blanc, un Français, Donc, on voit là bien le double discours, le deux poids, deux mesures, parce que si un Français dit quelque chose, c'est grave, tout le monde, voilà, ça crie dans les chaumières ou dans les cases, c'est au choix. Et quand un Noir dit la même chose, un Africain, bon, ça va, ça passe. Alors qu'il me semble quand même que, outre le fait que ce soit un ancien président de la République, Abdoulaye Wade, il a quand même été président de la République, c'était un intellectuel, un homme de lettres, tout ce qu'on veut, un mathématicien, hein. Effectivement, il est mathématicien. Il doit avoir, à minima, du respect, au maximum du devoir de réserve en tant qu'ancien chef de l'État, et en aucun cas, il ne peut traiter un autre homme comme lui, qui plus est africain, d'esclave. Mais là, il n'y a pas eu de réaction. Contrairement à Nicolas Sarkozy, où les gens ont écrit des livres, l'Afrique répond à Sarkozy, on a fait des chansons, ah, Sarkozy méchant, etc. Et Abdoulaye Wade dit que le président Macky Sall est un descendant d'esclave, et qu'à ce titre, cette condition servile le suit toute sa vie, lui, ses descendants, et qu'il a même traité d'anthropophage aussi. Il a dit, c'est un descendant d'esclaves, et ses parents mangeaient des enfants. Bon, là, on est bon. Là, on est en plein dans les clichés, quoi, de l'Afrique, de l'Africain esclave et cannibale. Mais il n'y a eu de réaction d'aucun artiste, d'aucun intellectuel. On a l'impression que c'est plus grave lorsque c'est un blanc qui le dit, et ça, c'est du racisme à rebours, et il faut en parler.
Ah oui, oui, c'est beaucoup de polémiques, si tu veux. Enfin, c'est beaucoup de choses à dire, c'est un petit peu l'hypocrisie des intellectuels africains. Et dans ce contexte, dans ton livre aussi, il y a un chapitre consacré à Patrice Lumumba, dans lequel aussi vous parlez de l'hypocrisie que vous venez d'évoquer, que quand Macky Sall critique un ancien président, le trait de tous les noms d'oiseaux, personne ne réagit. Pourriez-vous nous en dire plus par rapport à cette hypocrisie des intellectuels africains prêts à donner, à réagir épidermiquement quand si c'est un blanc qui intervient sur des questions africaines, quand c'est un autre Africain intellectuel ou président soit-il, critique si violemment un autre président.
Bien sûr, c'est la même chose, sauf que Lumumba c'est encore pire, parce que là, bon, Abdoulaye Wade, c'est un peu un épiphénomène, hein, c'est un président, on voit bien que là, il n'a pas su tenir sa langue, hein, il n'a pas été à la hauteur de sa réputation, et puis au Sénégal, on a été habitué à mieux, hein, c'est pas l'Ouganda, le Sénégal, c'est quand même le pays de Léopold Sédar Senghor, qui a dit qu'il était quand même poète président, et pas président poète, qu'il tenait à sa condition d'intellectuel avant sa condition d'homme politique, qui est très rare. Le pays de Léopold Sédar Senghor, qui a été un dirigeant chrétien dans un pays à majorité musulmane, c'est le seul président qui n'a pas dirigé avec sa famille. Il faut le dire, en Afrique, c'est énorme. C'est le seul qui n'a pas détourné d'argent. Je ne dirais pas qu'il est mort pauvre, mais ce n'est pas Mobutu Omar Bongo, par exemple. Et donc, là, effectivement, oui, le Sénégal, ça m'a beaucoup choqué, parce qu'ils ont habitué à mieux. Mais pour Lumumba, c'est la même chose, c'est même encore pire. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, en Afrique et même ailleurs, pour Lumumba, c'est un symbole. C'est le symbole de la lutte pour l'indépendance, c'est le discours du 30 juin. Personnellement, je pense qu'il était inapproprié ce discours, parce qu'il n'était pas prévu par le protocole. Et la première des choses, lorsqu'on est Premier ministre, c'est de respecter les usages protocolaires. Il ne l'a pas fait. Mais, concernant la mort de Lumumba, on dit toujours que ce sont des Blancs qui ont tué Lumumba. Toujours, c'est-à-dire que dans toutes les versions, ce sont des Blancs. Alors là, c'est au choix. Hein. Les Belges, les Américains, parfois, mais les Français, alors que les pauvres, ils n'avaient rien à voir avec ça. C'est les gens d'ailleurs qui le disent de plus en plus, d'ailleurs aujourd'hui, ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique, parce qu'on disait bien Congo belge. Voilà. Les Français avaient leur Congo, c'était le Congo Brazzaville. J'ai dit bien leur Congo entre guillemets. Voilà. Mais les Français n'ont rien à voir dans la mort de Lumumba, même si aujourd'hui, de plus en plus d'intellectuels, entre guillemets, africains le disent, c'est de la mauvaise foi pure. Mais on occulte clairement le rôle que des Congolais ont joué dans l'assassinat de Lumumba.
Vous voulez dire que les Africains n'arrivent pas à bien étudier leur histoire, ils ne prennent pas le temps?
Non, je dis que l'histoire est orientée. C'est-à-dire que dans la mort de Lumumba, il y a quoi? Il y a des Occidentaux, pas des Européens, parce que les Américains ont participé, les Américains ne sont pas Européens. Ils sont blancs, entre guillemets. Voilà. Mais les Danois sont blancs, mais ils n'ont rien à voir avec ça non plus. Donc il faut situer les responsabilités, non pas sur la base de la couleur, la base de la géographie. Donc ceux qui ont participé à l'assassinat de Lumumba sont américains. Donc on a Larry Devlin par exemple, je vous donne des noms, ils sont belges, on a Promon Linden, le major Weber, le colonel Van de Waal, on a également Jacques Barthelou et tous les autres. Et lui, il était du côté de Tchombé. On a des Congolais aussi, en tête desquels Mobutu, en tête desquels Moïse Tchombé, Godefroy Munongo et les subalternes Victor Ndaka et les autres. Mais ce qui est drôle dans cette affaire, c'est que lorsqu'on dit, on parle de la mort de Lumumba, on ne met en avant, on ne met en avant que les responsabilités extra-africaines. Et d'ailleurs, on va même jusqu'à dire, oui, mais ce sont des blancs qui ont manipulé les noirs. Je dis, mais quand même, si un blanc aujourd'hui te dit jette-toi dans le fleuve, tu vas pas le faire parce que c'est un blanc qui te l'a dit. En fait, c'est-à-dire que le dire même, c'est avouer, c'est reconnaître que les Africains ne sont pas capables de discerner. Ils sont pires que les enfants, en fait. Ce sont des gens, il faut toujours qu'un blanc vienne leur dire des choses, alors que c'est faux. La mort de Lumumba est une association de personnes, de malfaiteurs, qui ont eu un objectif commun. Et dans ces malfaiteurs, il y a des Belges, il y a des Américains, mais également, et peut-être même surtout, des Congolais et des Africains. Et les Africains, je situe les responsabilités de Joseph Mobutu. La photo de Lumumba qui a fait le tour du monde où on le tient dans une jeep, on le maltraite, même les images, où on essaie de lui faire manger sa dernière déclaration, on ignore une chose fondamentale, c'est que cette scène se passe devant la maison de commandement du colonel Mobutu, et ça se déroule aujourd'hui au camp Kokolo, qui est donc le camp Tchatchi aujourd'hui à Kinshasa. Mmh. Ça se passe dans sa cour, dans un camp militaire, et Mobutu assiste à ça, tout sourire. La veuve de Lumumba est à côté parce qu'il y a d'autres images de la société de presse notamment. Mmh. Et donc on a un Mobutu qui a demandé, qui a convoqué la presse à l'aéroport, puis chez lui, pour assister à la déchéance de Lumumba. Et à la fin de cette séance, on va dire d'exhibition et de torture, parce qu'on le frappe, on essaie de lui faire manger son discours, il refuse. On voit tous l'image où on lui tend d'un bout de papier et qu'il refuse. Tous ceux qui le font, ce ne sont pas des blancs, entre guillemets, ce sont des noirs, ce sont des Africains. Il n'y a pas de colonel lui marlière, il n'y a rien de tout ça. Et Mobutu dit, après cela, « Je peux vous garantir que pour moi, M. Lumumba est un homme fini. » Et quand il le dit, ce n'est pas un Belge qui lui dit de le dire, il n'y a pas un Belge derrière lui. Et il le dit pourquoi? Parce qu'il veut, tout simplement, parce qu'il veut tout simplement aussi avoir sa place. Il veut avoir son pouvoir. Il en voulait à Lumumba, qu'il avait d'ailleurs fabriqué, parce qu'il a été le secrétaire de Lumumba à la table ronde de Bruxelles, qui était en réalité carrée, parce que la table n'était pas ronde, elle était carrée. Mais et Lumumba l'a nommé ministre, ministre délégué. Mobutu a été ministre, et Lumumba qui fait de lui ce qu'il est devenu, qui le nomme même chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et on a d'ailleurs, avec Moïse Tshombe qui accepte de l'assassiner, donc de terminer le travail, Moïse Tshombe pareil, qui lui avait dit « le Tu voyages beaucoup pour placer ta bière, mais évite ma région parce que nous, on n'oublie rien. Et tous ces gens-là, historiquement, on ne les met pas face à leurs responsabilités. La mort de Lumumba est un crime colonial. Peut-être. Mais il y a des responsabilités qui, à mon sens, sont égales, peut-être même supérieures, des Congolais. Et ces gens-là, ces Congolais-là, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les dénonce pour pouvoir justement raconter l'histoire telle qu'on l'aurait voulu. Qu'on la veut, mais telle qu'elle a été. Et d'ailleurs, Lumumba, dans sa dernière lettre, dit l'histoire, à sa femme d'ailleurs, il dit, je sais que l'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire écrite à Londres, ou à Paris, Washington ou aux États-Unis. Voilà, donc je pense que le temps est arrivé de mettre les gens face à leurs responsabilités. Et ces gens-là ont assassiné Lumumba au même titre que les Belges, au même titre que.
À la fin, tu comptes, si je vous comprends bien, ils ont participé ensemble à ce mascarade. D'assassinat d'un grand leader politique aussi, pour défendre aussi leurs intérêts communs qui étaient ensemble, mais il y avait quand même les Congolais eux-mêmes qui ont participé activement, si je comprends bien.
Mais ça, c'est pas reconnu. C'est-à-dire que quand on parle de la mort de Lumumba, on ne parle jamais des Congolais. Ou quand on veut en parler, on dit qu'ils avaient un rôle subalterne. Pas du tout. Pas du tout. Et moi, je vais même plus loin, parce que ce qu'on ne sait pas, ou qu'on feint de ne pas savoir et qu'il faudrait donc clamer, c'est que lorsque Lumumba est arrêté par des soldats congolais, il réussit à s'enfuir. Et il demande l'asile à une garnison de l'ONU. Et ces soldats de l'ONU sont africains. Ils sont nigérians. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un certain Agouyi Ironsi, qui sera le premier président Igbo du Nigeria, qui va d'ailleurs inaugurer le premier coup d'État. Non, pardon, le deuxième président Igbo, parce que le premier président du Nigeria est Igbo, mais le premier président issu d'un coup d'État au Nigeria, Agouyi Ironsi d'ailleurs, qui lui-même va être renversé par un coup d'État et va être assassiné. On y voit l'origine de la guerre du Biafra, mais ça c'est encore une autre histoire. Il y a parmi ces soldats un certain Fode Sanko, qui va être tristement célèbre parce qu'il va être un Sierra Leonais, donc il va être tristement célèbre. Il va créer le RUF en Sierra Leone qui coupait les mains, etc. etc. avec Charles Taylor, bon, ça c'est encore une autre histoire. Et il y avait des casques bleus ghanéens. Ces gens-là, qui étaient d'ailleurs issus de pays dits progressistes, auraient dû, et des Guinéens d'ailleurs qui étaient présents aussi, auraient dû, dans ce cas, auraient dû protéger Patrice Lumumba. Parce que c'était un premier ministre qui avait été renversé. Deux, c'était un être humain. Et l'ONU est là pour protéger les gens. Or, l'ONU a, via des casques bleus africains, je dis bien, je dis pas européens, africains, ont pris Lumumba et l'ont remis aux soldats congolais. Et Fodé Sanko, d'ailleurs, en parlera jusqu'à la fin de sa vie. Bon, après, bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il a tué beaucoup de gens aussi. Mais voilà, pourquoi ces responsabilités sont jamais pointées du doigt? Pourquoi? Moi, c'est la question que je pose. Et en plus, pour parler de responsabilité, pour Lumumba, vous constatez que je peux en parler pendant des heures.
Ah, mais... oui, effectivement, on continue toujours dans ce cadre de dénonciation. On va revenir aussi sur le cas du Gabon, si nous pouvons aussi en parler, par rapport à ton livre où vous dénoncez l'élection présidentielle de 2009, que vous faites... une analyse qui n'est pas, mais quand même commune au niveau des intellectuels docteurs français qui sont ici dans la diaspora ou aussi sur le territoire national. Vous êtes si jeune, vous avez une analyse fine concernant tous ces sujets de l'histoire. Vous pouvez nous en dire plus, d'où vous vient cette sagesse-là?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais, pour vraiment terminer sur Lumumba, parce que c'est très important, j'aimerais dire qu'on a toujours le choix. Et je vais l'illustrer par un exemple. Lorsqu'il s'agit d'exécuter Lumumba, puisqu'il se trouve en prison à Tisville, donc aujourd'hui Mbanza-Ngungu, au Congo, on pense à deux personnes, donc Moïse Tshombe qui le haïssait, et au président du Kassai, Albert Kalonji, l'empereur du Kassai, Molopwe, comme on dit dans sa langue, l'empereur du Kassai. On pense à qui lui aussi avait promis, qui était son ancien allié politique, avait promis de transformer sa tête en vase. Voilà, ni plus ni moins. Puis bon. Mais Albert Kalonji, ça doit être porté au crédit, au bénéfice de sa mémoire, hein, qui est par ailleurs chargé de péché. Albert Kalonji va refuser d'exécuter Lumumba. Il va refuser de le faire. Il va dire, je l'ai dit, c'est vrai, mais c'est mon frère Bantou, et quand on est Bantou, on ne se tue pas. On peut se menacer, mais on ne se tue pas.
D'accord.
Moïse Tshombe va avoir des hésitations, mais c'est quand même lui qui, au nom, tant que l'histoire existera, tant qu'on vivra, qui, au nom de sa haine, a accepté de finir le travail. Et Patrice Lumumba dira... En rappelant cela lorsqu'il se rend de ses mains, il va lui dire « je t'avais promis qu'électoralement mon parti allait écraser le tien dans ta région de Katanga, et toi tu m'avais assuré le contraire. Et aujourd'hui je suis entre tes mains, vous êtes en train de me torturer, vous m'avez écrasé effectivement. »
Voilà.
Donc, pour revenir au Gabon, parce que c'est la question qui a été posée,
centrer le débat.
Quoi. Voilà. Mm-hmm. Et pour revenir au Gabon, c'est une analyse très simple. Et d'ailleurs, je dois rendre à César ce qui est à César, parce que je ne le fais pas dans mon livre, mais n'y voyez aucune malice. C'est une analyse qui me vient d'un homme politique gabonais qui est également un universitaire, qui s'appelle Daniel Mengara, qui s'est interrogé sur la question. Et moi, à la suite de Daniel Mengara, je me pose la question, je me dis, mais comment au Gabon, en 2009, une élection anticipée après la mort d'Omar Bongo qui a régné 42 ans, parce qu'il n'a pas présidé 42 ans, il a régné. Omar Bongo, c'était un président à vie de fait. Il a d'ailleurs voulu être roi du Gabon formellement en 1985. Bon, voilà, donc ça c'est l'histoire du Gabon aussi. Si ceux qui ont des doutes, ils peuvent toujours se référer aux mémoires de Jacques Foccart. Foccart parle. Voilà, tome 2. Voilà, je donne déjà la référence. Et aussi aux mémoires de Jacques Chirac, hein, d'ailleurs. Le premier tome, chaque pas doit être un but. Alors, après la mort d'Omar Bongo, on a une recomposition de la scène politique gabonaise, ce qui est tout à fait normal, et on a une élection anticipée. Bon, toujours comme au Gabon, Ali Bongo, qui n'aurait même pas dû se présenter à cette élection, il faut bien préciser les choses, n'empêche qu'il participe. Et curieusement, fait nouveau, unique même, dans l'histoire du monde, de l'humanité, hein, là, j'ai fouillé, il n'y en a pas. On a, et pourtant, il y a des choses, il y en a de belles. En Afrique, par exemple, on a le record de l'élection la plus frauduleuse du monde. C'est Charles Dumbass Burger King, qui est Dumbass King, plutôt pas Burger, mais Dumbass King, qui est un président libérien qui a été élu à plus de 100 000% des voix. Bon, voilà, il faut le faire.
Bah oui, il faut le faire. Comment on dit le score à la soviétique?
Lui, il a dépassé les soviets 100 000%, même Staline aurait hésité à faire ça. Mais au Gabon aussi, on a un record où on a la seule élection présidentielle qui a été revendiquée par 3 personnes. Donc en 2009, au mois d'août, donc en septembre notamment, l'élection du 30 août 2009, on a, suite à cette élection, 3 personnes qui revendiquent avoir gagné. Donc, on a Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, donc héritier du régime, hein, héritier du trône, hein, du royaume du Gabon, royaume de la jungle. Voilà, donc c'est un roi de la jungle aussi, c'est un roi nègre, entre guillemets, toujours, ah oui, c'est un roi nègre. Il vient d'un pays de forêt, comme il le dit si bien. c'est le roi de la brousse, on va dire ça comme ça. Et je suis noir, donc je peux me permettre de le lui dire. N'y voyez aucune malice, hein. Je suis gabonais comme lui en plus. Mais en face, et curieusement, on avait André Baobab qui disait qu'il avait gagné, qui était un néo-opposant, qui avait été son ami pendant longtemps, qui était d'ailleurs son ami, parce que...
Non, mais je parlerai même de son frère.
Donc voilà, de son frère, merci, parce que Baobab le disait ouvertement. Et Pierre Mamboundou, opposant historique, mais pas trop, parce qu'à partir quand même de 2006, il avait commencé à fréquenter Omar Bongo, qui était devenu son grand frère, comme par hasard.
Ah oui.
Et Ali Bongo, qui était devenu son neveu. Oui. Et Ali Bongo l'appelait tonton. Et ça, c'est public, parce qu'Ali Bongo, il y a une émission de Chamberlain Mokwama qui passait... sur la première chaîne de télévision du Gabon qui s'appelle Pluriel, qui est d'ailleurs encore dans les extraits sont disponibles sur YouTube, où Ali Bongo dit clairement Pierre Mamboundou c'est mon tonton. Bon, moi je ne sais pas quels sont leurs liens, parce qu'il me semble qu'ils n'avaient aucun lien de parenté, mais qui suis-je moi pour les juger, hein, s'ils avaient si Pierre Mamboundou s'était découvert dans les Bongo une famille, je ne peux pas contester cela. Et donc on a quand même 3 personnes qui revendiquent avoir gagné. Et moi, je dis, la question que je me pose et qui reste ouverte, qui a gagné en 2009? Qui a gagné en 2009? Même si, et là je suis le docteur Mengara, même si on dit, on écarte Ali Bongo, parce que de fait, il ne peut pas avoir gagné. C'est impossible.
Effectivement, le docteur Mengara a toujours eu une bonne analyse très fine de la politique gabonaise. C'est vrai, hein, il a toujours posé cette question, qui a gagné des élections?
Oui, mais qui a gagné l'élection en 2009? Qui? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Qui a gagné l'élection présidentielle au Gabon en 2009? Si on enlève Ali Bongo, parce que bon, c'est un fraudeur invétéré, hein, lui, voilà, on l'écarte tout de suite, la question n'est pas résolue. Bon, aujourd'hui, vous me direz que le problème s'est résolu de lui-même puisque tous les acteurs sont morts, hormis Ali Bongo, qui est bien vivant. Faut qu'on s'entende, je ne vais pas dire ici qu'Ali Bongo est mort. Je n'ai pas vu son certificat de décès. Mais qui a gagné? On enlève Ali Bongo, on a Pierre Mamboundou qui revendique, on a André Baobab qui revendique, chacun de leur côté. Hein. C'est-à-dire que même dans le contentieux post-électoral à la Cour constitutionnelle, vous avez chaque candidat, avec ses avocats, qui venaient séparément contester l'élection d'Ali Bongo ensemble, mais revendiquer chacun la victoire.
Est-ce qu'ils avaient des procès verbaux? Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça, vous qui êtes un petit peu historien?
Ah oui, il faut savoir que Baobab a confié au docteur Mengara qu'il avait 800 procès verbaux sur 2600 bureaux de vote. Donc en fait, fondamentalement, Baobab ne se basait quasiment sur le 1/5 des procès verbaux, ce qui montre que ce n'était pas sérieux du tout. Et Pierre Mamboundou, bien sûr. Et c'est encore pire parce que Pierre Mamboundou, lui, a affirmé qu'il avait tous les PV parce qu'il avait un parti politique bien organisé au niveau national à l'époque. En plus, l'UPG en 2006 était un parti très puissant. Mais curieusement, Pierre Mamboundou a refusé de les publier, a contesté mollement. Et après, bien sûr, il a parlé d'ouverture, d'union nationale, etc. Il a été question maintenant qu'ils travaillent ensemble pour le bien du Gabon et du peuple. Et que, comme disait là, je vais toujours paraphraser le docteur Mengara, hein, qui, Hakim Bahabé, se l'avait dit qu'en politique, il faut savoir fermer et ouvrir. Et à chaque fois qu'il ouvrait, on remarquait que c'était plein d'argent qui tombait dans la main. Donc, effectivement, Pierre Mamboundou, on peut supposer, là, qu'il n'avait peut-être pas gagné, entre guillemets. Mais le fait est que, réellement, au Gabon, cette question n'a jamais été tranchée. Qui a gagné en 2009? Ali Bongo, on le met de côté, il n'y a pas de problème, mais on se retrouve avec... un Pierre Mamboundou et un André Baobab. Et la question qui fait mal, et là où on rigole moins, c'est qu'il y a eu une crise post-électorale au Gabon, il y a eu des émeutes, il y a eu une répression, il y a eu des morts, des gens qui ont été assassinés, voilà, il y a des gens qui ont été tués, et il y a eu des vols de la mort, c'est-à-dire des gens qu'on a pris, qu'on a jetés par hélicoptère dans l'océan Atlantique, il faut le savoir ça. Et moi je pose la question, mais ces gens-là sont morts pour qui en fait? Parce que dans les rues, il y avait des gens qui manifestaient, mais chacun manifestait pour son candidat. alors que le peuple a bien choisi quelqu'un. Qui est cette personne?
Effectivement, c'est un déficit de démocratie au Gabon, apparemment.
Ah ben, c'est plus qu'un déficit de démocratie. Le Gabon n'est pas une démocratie. Le Gabon est une dictature pure et dure. C'est d'ailleurs un royaume, en fait. Le Gabon, de fait, c'est une monarchie. C'est une monarchie déguisée, très mal déguisée. Même. Lorsque vous regardez la cérémonie de prestation de serment des ministres, mais il y a l'équivalent en monarchie, ça s'appelle l'hommage-lige.
Effectivement, on voit ça.
Voilà. Mm-hmm. On ne peut pas jurer fidélité à un président.
Un être humain.
C'est pas possible. On jure fidélité à un pays.
Un pays.
On ne jure pas fidélité à un être humain. Mm. Lui, ici, il est élu par le peuple. Tous ne doivent reconnaître que le peuple. Et l'expression du peuple, c'est la Constitution. Mm-hmm. Élaborée par les parlementaires qui, eux, sont issus du peuple. Mm-hmm. Mais c'est pas le cas du Gabon. Le Gabon n'est pas plus une démocratie que moi, je suis suédois. Donc, un moment. Et même, j'ai même des chances de devenir suédois, le Gabon ne le sera toujours pas. En tout cas, le régime de Bongo. Donc là, on est dans autre chose, mais pour revenir à 2009, effectivement, là, on est pour moi dans la plus grande entourloupe. C'est un enfumage monumental. Et il y a des gens qui se sont entendus pour tremper les Gabonais une fois de plus. Et ça, c'est inadmissible.
Ah oui, j'aimerais bien savoir, parce qu'à la Cité de la démocratie, tout ce monde-là, ils étaient là, Ndombo Bam, et puis aussi, il y avait aussi le troisième, le quatrième homme, Bruno Ben Moubambek, tout ce monde-là était regroupé à la Cité de la démocratie pour réclamer tous la victoire contre M. Ali Bongo. Est-ce que les hommes politiques gabonais dans leur ensemble n'arrivent pas à mieux s'organiser concrètement? On voit aussi tout récemment là avec Ping, tout le monde avait dit le candidat unique, et le candidat unique, on revient toujours aux remarques de 2009. Cela dit que chaque élection, c'est toujours la même recette.
Ben oui,
vous qui
ben
avez oui, une ben jeune, oui, vous êtes jeune, mais vous avez vraiment une bonne analyse. Ça veut dire que vous n'agissez pas épidermiquement. La politique, c'est aussi analyser les faits concrets, comme vous faites toujours allusion au docteur Mangara. Docteur Mangara, on peut toujours le reprocher, tout ce qu'on le reproche, mais c'est un homme très habile, très intelligent, qui analyse des choses concrètement.
Mais oui, mais de toutes les façons, l'histoire du Gabon est une tragédie. Dans le sens où tout ce qui se passe dans ce pays est déjà écrit à l'avance, a déjà été vécu, surtout aujourd'hui. Mmh. On a la même chose, c'est-à-dire on a un Bongo, père ou fils, assis sur son argent, et donc l'argent des Gabonais, parce que c'est pas son argent. Bongo était agent des postes, voilà, il n'a pas de fortune personnelle. Ali Bongo, personnellement, tout ce qu'il a, il le doit au fait qu'il a pillé le Gabon. Il a été haut fonctionnaire, il ne peut pas justifier son train de vie. Il a fait de la musique, sa seule activité libérale, il n'a pas vendu plus de 100 disques. Donc il faut à un moment donné qu'il me dise d'où vient l'argent. Bon, voilà. Pour le reste aussi, on peut en parler. Mais le drame du Gabon, c'est celui-là, c'est que on a un régime autoritaire et qui se durcit au fil des années, notamment depuis Ali Bongo, mais on a en face une opposition qui ne vaut rien. Parce que vous savez, et je vais répondre à cette question simplement en citant Omar Bongo lui-même. Une fois, on lui a posé la question en France et l'opposition gabonaise. Et il a dit, je vais essayer d'imiter un peu sa voix, l'opposition, écoutez, elle s'oppose à tout, mais surtout à elle-même. Donc l'opposition gabonaise, elle s'oppose à tout, mais surtout elle-même. Mmh. Et donc on a des gens qui sont toujours pleins de contradictions, parce que ce sont des gens qui se servent de la politique comme moyen d'enrichissement.
À la fin, vous voulez dire que ces hommes politiques-là ne sont pas là pour servir le peuple, non, ils sont là pour s'en servir.
Bien sûr, ils sont là pour se servir. Ils sont là pour se servir parce que c'est toujours la même ritournelle. Mmh. Parce qu'il faut bien regarder l'histoire du Gabon. Mmh. L'histoire du Gabon, c'est toujours des mouvements populaires qui sont récupérés par des politiques et qui sont travestis par eux. Mmh. 1990, c'est pareil. Et ça part d'ailleurs de l'université, d'ailleurs de Dr Mengara qui est aujourd'hui, c'est lui l'initiateur de 90. Hein. Mmh. Il faut le lui reconnaître et d'ailleurs le clamer. Une fois ça arrive au niveau politique, les politiciens trouvent des arrangements avec le régime. Ça donne les premières élections législatives après le parti unique. Mmh. Ballotage défavorable. Pour le PDG, Mabé Sol qui dit que la coalition est caduque, ballotage favorable du PDG, le PDG a la majorité, même s'il est mis à mal. On revoit la même chose en 93, Omar Bongo qui décide unilatéralement d'arrêter le processus électoral, alors qu'on n'a pas donné les voix de l'Estuaire où se situe plus de 70% du collège électoral. Ça, il faut le savoir. Mmh. Avec une gouverneure du Haut-Ogooué, Mme Ningone, à qui il faut rendre hommage, qui, elle, déclare ouvertement, étant responsable du dépouillement, que le dépouillement de l'Estuaire n'a pas été fait, que les chiffres annoncés par...
Vous voulez parler de l'ancien gouverneur de l'Estuaire?
Oui, Mme Ningone, l'ancien gouverneur de l'Estuaire. Et que les chiffres annoncés donc par Boumou Miyakou, le père, parce que ben bon, voilà, c'est la preuve que c'est une monarchie, vous voyez, même les postes ministériels sont de père en fils. Voilà, on a un ministre de l'Intérieur, Boumou Miyakou, papa, et il a, l'enfant aussi, vient, il occupe le même ministère. Voilà. Et c'est ça la monarchie, en fait, mais une monarchie de la brousse, hein, faut qu'on se le dise, monarchie de la jungle. Et là, on a quoi?
Vous voulez dire qu'une monarchie avec ses bouffons?
Oui, mais ça c'est with the monkeys on the trees, comme disent les Américains, c'est-à-dire, ça c'est les trucs de la jungle, vraiment, parce que c'est caricatural.
Ah d'accord.
Le Gabon est un état caricatural, c'est même pas un état hybride, on sait pas trop ce que c'est. Mm. C'est-à-dire que c'était un royaume, même quand on regardait les fauteuils de tous les présidents des grandes puissances. Mm-hmm. Regardez le fauteuil du président du Gabon. Mm. C'est un trône.
Effectivement.
C'est un trône. Mm. Bon, on va pas m'expliquer à moi que le fauteuil du président français, par exemple, est simple, je dirais pas que c'était un fauteuil de bois, mais voilà. Et que pour le Gabon, c'est frappé d'or, avec des armoiries. Et quand vous regardez le trône, par exemple, du roi du Maroc, vous trouvez que ça se ressemble. Donc il y a une volonté réelle de singer les monarchies. Hmm. Bien sûr, d'ailleurs Bongo l'avait dit, Omar Bongo était clair, il voulait que le Gabon devienne un royaume, il a voulu en 85. D'ailleurs, ça a coûté la vie à Alexandre Manza. Hmm. Aussi, c'est l'histoire du Gabon, il faut la connaître. Hmm. Mais pour revenir à l'opposition gabonaise, qu'est-ce que je dis, moi, fondamentalement, c'est que elle, non seulement elle n'est pas à la hauteur, mais que ce sont des entrepreneurs, ce sont des politico-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils se servent de la politique pour s'enrichir.
Ah d'accord. Donc ils ne sont pas là pour créer des richesses, ils sont là pour ruiner encore le peuple plus.
Bien sûr, se servir de ça, parce qu'en fait, Omar Bongo, et même Ali Bongo dans une certaine mesure, parce qu'il a beaucoup de défauts, mais il n'est pas totalement idiot. On peut moins lui le reconnaître.
D'accord.
Voilà, on peut moins lui reconnaître. Il n'est pas très beau, mais il n'est pas si idiot que ça. Mm-hmm. Il sait très bien qu'il n'est pas là pour arranger quoi que ce soit. Ce sont un prédateur né. Ces gens-là sont des prédateurs. Ce sont vraiment sur le principe de la prédation ultime. Mm-hmm. Mais ils savent aussi que pour que la prédation dure, il faut acheter une certaine paix sociale. Et comme les Gabonais sont des gens qui ont un esprit très républicain, parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas évoluer hors du cadre politique, donc républicain, donc élections et toutes ces choses-là, c'est tout à leur honneur, parce que le jour où on sort de là, ça donnera n'importe quoi. Ils achètent, au lieu de répondre aux attentes, au lieu de répondre aux attentes, là, c'est mon téléphone qui sonne, je suis désolé, donc...
Oui,
donc voilà,
oui.
Au lieu de répondre aux attentes du peuple, il préfère acheter les espoirs du peuple. Ou du moins, c'est détourné en disant, c'est le cas de Mbappé Sow, avec la photo où il a joué.
Oui.
Cette photo est complètement. Est un désastre. Parce qu'Omar Bongo dit, écoutez, je suis peut-être mauvais, mais je suis pas le pire. Parce que regardez le type que vous avez choisi, c'est lui qui a joué devant moi. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, la méthode Bongo. C'est qu'on a des opposants qui se disent opposants.
D'accord. Voilà, notre émission s'achemine à la fin. Donc nous avons là à vous dire que vous allez bientôt publier un autre ouvrage qui s'appelle Mauvaises nouvelles du Gabon. Pourriez-vous nous dire très brièvement, parce que nous sommes là pour une autre émission toujours littéraire qui va démarrer. Avec notre ami qui se trouve à Abidjan, Côte d'Ivoire, pourriez-vous nous dire brièvement concernant votre dernier ouvrage, la nouvelle chronique du Gabon?
Mauvaise nouvelle, là, c'est un ensemble d'articles que j'ai écrit pendant 3 ans dans divers médias et qui parlent du Gabon et qui montrent donc l'évolution de la situation. Mm-hmm. De la commande d'armes d'Ali Bongo en Ukraine qui préparait déjà son coup d'état électoral.
D'accord.
C'est moi qui ai fait sortir l'affaire. Mm-hmm. À l'éviction des Black Boys, hein, comme on dit, du clan Lakeu Chalianga, que j'avais aussi prédit. À bien sûr l'attaque du QG de Jean-Ping que j'ai démontré qui était d'ailleurs quelque chose qui avait déjà été vécu, parce que Mbappé Sow a eu la même chose, Pierre Mamoudou a eu la même chose, et que ça fait partie donc du savoir-faire du régime, en fait.
Du processus du régime prédateur avec ses bouffons, quoi.
Bah, toujours avec ses bouffons. Mais ce qui est dramatique, comme je le disais tout à l'heure, et d'ailleurs ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure, votre quatrième question, c'est qu'on a fondamentalement un peuple courageux au Gabon, très courageux, mais une élite qui n'en vaut pas la peine. Une élite que, moi, que j'ai appelée le politico-entrepreneur. C'est-à-dire, se sert de la politique pour s'enrichir. Et les Bongos ont bien conscience de ça, ils les achètent systématiquement et détournent les idées du peuple. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ceux qui sont en prison, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire les enfants du peuple qui sont en prison. Jamais l'enfant d'un homme politique, opposant soit-il, n'a été empêché de quitter ce pays.
Voilà, merci beaucoup. Notre émission s'achève. Nous vous disons que de continuer toujours à nous suivre sur Radio Tam Tam. N'oubliez pas de télécharger notre application sur notre site internet www.radiotamtam.org et restez toujours en direct. Écoutez, c'est votre radio à musique. Merci. Nous étions en direct avec Joxy Ndolombe, journaliste et écrivain gabonais. C'est un jeune gabonais qui habite Île-de-France, qui travaille aussi pas mal sur Monde Afrique, collaborateur de Monde Afrique, pas mal, beaucoup de journaux français. Ici en France, c'est un jeune très actif. Je vous invite effectivement à acheter ses livres pour pouvoir bien lire les faits qu'il vient de étayer. Merci beaucoup et toujours sur Radio Tam Tam. Merci.